Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique In Code We Trust, dans le code nous croyons, de Noémie Berger, avocate au cabinet Dune. Bonjour Noémie.
Bonjour Fred.
Alors Noémie, tu souhaites nous parler aujourd'hui de l'invalidation du Privacy Shield. En français, on va appeler ça le bouclier de protection des données Europe-États-Unis. Donc je te laisse nous expliquer l'enjeu de cette invalidation.
Bonjour à tous. Donc effectivement, en droit des données, l'été a été marqué par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, du 16 juillet 2020, qui a invalidé le Privacy Shield. Pour rappel, la CJUE, c'est la juridiction européenne qui veille à l'application du droit de l'Union européenne. Et dans cette chronique, je propose de vous apporter un éclairage sur le concept de transfert de données, revenir sur l'objet du Privacy Shield, d'analyser la décision de la CJUE et ses conséquences. Alors, petit rappel préliminaire sur les transferts de données. Il faut comprendre ce qu'est un transfert de données pour comprendre pourquoi la CJUE a invalidé le Privacy Shield. Un transfert de données, selon la CNIL, c'est toute communication, copie ou déplacement de données personnelles ayant vocation à être traitées dans un pays tiers à l'Union européenne. Donc, le transfert, il implique trois éléments. Premièrement, des données à caractère personnel. Deuxièmement, une partie émettrice dans l'Union européenne. Troisièmement, une partie réceptrice hors de l'Union européenne. On comprend bien qu'aujourd'hui, avec l'importance des flux de la mondialisation, les transferts de données sont quasi omniprésents. Dans l'Union européenne, les transferts de données à caractère personnel sont encadrés par le droit de l'Union européenne. Pour transférer des données, il faut respecter les règles de l'Union européenne. Donc si le transfert se fait d'un pays membre de l'Union européenne vers un autre pays membre de l'Union européenne, on va considérer que les règles sont communes. Alors quelles sont ces règles? Eh bien, avant 2018, on avait une directive de 1995 qui s'appliquait. Et depuis le 25 mai 2018, eh bien, c'est le règlement général sur la protection des données qui s'applique et qui vise à encadrer les transferts de données. Le principe, c'est l'interdiction des transferts de données à caractère personnel vers des États non membres de l'Union européenne. Pourquoi cette interdiction? L'objectif, c'est d'empêcher que le niveau de protection des personnes physiques garanti par le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, ne soit compromis. Et qu'est-ce qui va permettre de garantir ce niveau de protection? Eh bien, s'il y a une interdiction de principe, dans les faits, on sait très bien qu'il existe des transferts de données hors de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que le RGPD prévoit un certain nombre de mécanismes qui viennent normalement garantir le fait que les règles du droit des données sont respectées. On a donc différents mécanismes, outils, dispositifs qui sont là pour garantir le respect du droit de l'Union européenne dans les transferts. Ces différents mécanismes, outils, peuvent être une décision d'adéquation de la Commission européenne qui concerne certains pays qui assurent un niveau de protection adéquat. Donc là, c'est la Commission européenne qui va, dans une décision motivée, indiquer quels sont les pays qui assurent un niveau de protection adéquat et dans ce cas-là, il peut y avoir un transfert vers ces pays. On peut aussi avoir des outils qu'on appelle les clauses contractuelles qui sont en fait dans le cadre d'une relation où on a un importateur et un exportateur qui sont l'un dans l'Union européenne et l'autre en dehors de l'Union européenne, eh bien, ils sont unis par un contrat qui va les lier. Et dans ce contrat, on a ces clauses contractuelles qui viennent encadrer strictement le transfert. On a également des transferts qui peuvent être fondés sur un mécanisme de certification ou un code de conduite, qui sont des documents qui sont approuvés par les autorités de contrôle, dans lesquels on a des engagements d'appliquer des garanties appropriées. On a également un mécanisme qui s'appelle les règles internes d'entreprise, les BCR, qui constituent en fait une politique de protection des données intra-groupe lorsqu'il y a des sociétés qui sont dans des cas dans l'Union européenne avec d'autres sociétés qui sont hors de l'Union européenne. Et enfin, nous avons la possibilité des transferts qui sont autorisés par un texte juridique. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le RGPD prévoit des dérogations à cette interdiction de principe du transfert, qui sont des exceptions très strictes, qui ne sont pas prévues par les mécanismes que je viens de vous présenter, mais qui permettent de contourner l'interdiction dans des cas très exceptionnels. Donc c'est pour ça que je ne vais pas entrer dans les détails, parce que pour comprendre le Privacy Shield, vous aviez besoin de comprendre qu'on vous expose les différents mécanismes, mais ce n'est pas nécessaire d'aller dans les exceptions qui sont quand même très très spécifiques. Le Privacy Shield, comment a-t-il vu le jour et pourquoi? Lorsque j'ai expliqué que certains transferts sont fondés sur une décision d'adéquation de la Commission européenne, eh bien le Privacy Shield il répond à ce critère. C'est-à-dire qu'il va concerner les relations entre les États-Unis et l'Europe. Donc pour tous les transferts qui avaient lieu entre les États-Unis et l'Europe, on visait le Privacy Shield, le bouclier de protection des données. Avant cela, historiquement, le département du commerce américain, en concertation avec la Commission européenne, avait instauré un accord qu'on appelait le Safe Harbor. Eh bien, ce Safe Harbor, il a été invalidé déjà en 2015 par la CJUE. Et à la suite de cette invalidation, il a fallu prendre une autre décision d'adéquation pour permettre de nouveau les transferts de l'Union européenne vers les États-Unis. Et c'est pour cela que la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis ont préparé ce nouvel accord qui était le Privacy Shield, qui est un mécanisme qui a été mis en place le 12 juillet 2016, qui en fait permet de garantir aux citoyens de l'Union européenne un niveau de protection équivalent à celui de l'Union européenne lorsque leurs données sont communiquées vers des entreprises aux États-Unis. Comment fonctionne le Privacy Shield? Eh bien, c'était un mécanisme d'auto-certification. Les entreprises américaines se déclaraient conformes à ces principes. Elles étaient donc inscrites sur une liste qu'on pouvait d'ailleurs toujours consulter sur Internet. Et on y voyait donc la liste des entreprises qui étaient certifiées. Les États-Unis avaient assuré à la Commission européenne qu'ils allaient procéder à des mesures de contrôle efficaces pour contrôler les entreprises américaines et éventuellement sanctionner en cas de non-respect de la réglementation de l'Union européenne, pouvant même aller jusqu'à la suppression de leur nom dans la liste. La différence avec le Safe Harbor, c'est que le Privacy Shield était censé apporter plus de garanties, plus de reconnaissance des droits individuels pour les citoyens. Il devait également empêcher, restreindre l'accès du gouvernement américain aux données à caractère personnel. Et on a eu, au moment du Privacy Shield, de nombreux acteurs qui se sont insurgés contre cet accord, pour dire qu'en fait, il ne garantissait pas, il n'était pas suffisamment protecteur au regard du droit de l'Union européenne. Et donc, un litige a été porté devant la CJUE, qui a opposé en fait un avocat qui était l'avocat qui avait déjà fait tomber le Safe Harbor, Maximilien Schrems, contre Facebook. Et à la suite donc, de ce litige porté devant la CJUE, eh bien, la CJUE a rendu cette décision en juillet 2016, où elle annule purement et simplement la décision de la Commission européenne de reconnaître une protection adéquate au Privacy Shield. Donc, pour faire fonder cet accord, la CJUE se fonde sur deux raisons principales. Le premier, c'est que les services de renseignement américains opèrent une surveillance qui leur permet, pour des raisons de sécurité nationale et d'intérêt public, d'accéder aux données qui sont transférées depuis l'Union européenne sans limitation d'accès. Et deuxième raison qui justifie pour la CJUE le fait que le Privacy Shield ne réponde pas à la réglementation européenne, c'est qu'il n'offre pas suffisamment de droits de recours effectifs aux personnes qu'il est censé protéger. Et donc, considérant que le Privacy Shield ne répond pas à ses exigences, la CJUE le rend invalide. La conséquence, c'est que le Privacy Shield aujourd'hui ne peut plus servir de fondement à un transfert de données à caractère personnel vers les États-Unis. Donc, il tombe sans préavis, application à effet immédiat. Les conséquences, eh bien, c'est que les transferts de données à caractère personnel à destination d'entreprises américaines qui étaient fondées sur le Privacy Shield sont désormais illicites et doivent être suspendus. Donc, la décision est quand même très importante. Elle a vraiment des impacts forts. Donc, ce qui signifie que les transferts peuvent se faire, mais il faut un autre mécanisme que le Privacy Shield pour les justifier. Donc, non, il n'est pas impossible aujourd'hui de transférer des données vers les États-Unis, mais c'est sous condition. Il faut donc faire une analyse au cas par cas pour déterminer si les garanties qui sont proposées par un importateur implanté dans un pays tiers tel que l'Union européenne, eh bien, ces garanties soient suffisantes. On s'est posé la question de savoir si le fait d'avoir invalidé le Privacy Shield, ça constitue un vide juridique. Non, puisque dans la mesure où il existe d'autres mécanismes que je vous ai présentés en début de la chronique, en réalité, il est tout à fait possible de trouver un autre mécanisme à appliquer. Alors évidemment, la doctrine va se construire au fur et à mesure et on risque d'avoir, alors peut-être pourquoi pas, une nouvelle décision d'adéquation, en tout cas pour les transferts vers les États-Unis. Mais le Comité européen de la protection des données, qui est l'organe qui garantit l'application cohérente du RGPD dans tous les pays de l'Union européenne, est en train de travailler sur des des explications, des pratiques pour pouvoir remédier à cette invalidation du Privacy Shield. Et d'ores et déjà, le Comité européen a indiqué que les sociétés qui souhaitaient faire de tels transferts pouvaient mettre en place les clauses contractuelles, donc qui sont un des outils qui est prévu par le RGPD. Et il suffit pour cela d'appliquer en fait les clauses contractuelles dans les contrats qu'on conclut avec un sous-traitant, par exemple, qui sera à l'étranger. Donc en pratique, pour les sociétés qui sont concernées, qu'elles soient des sociétés sur le territoire de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, ce qu'il faut, c'est évidemment lister les flux, lister ces sous-traitants aussi pour voir dans quelles conditions ils vont transférer les données à caractère personnel, regarder les contrats. S'il y a des transferts vers les États-Unis, tout de suite, sans attendre, négocier un avenant ou intégrer dans les contrats qu'on a en cours des clauses contractuelles types. Si c'est un transfert vers un pays autre que les États-Unis, vérifier que la législation de ce pays elle est suffisamment conforme aux exigences de la CJUE au niveau de protection des données personnelles attendues. Donc voilà un petit peu la présentation de cette décision qui a quand même fait beaucoup fait parler d'elle parce que c'est en pratique dans le droit des données, les transferts de données ils sont omniprésents comme je l'expliquais et c'est vrai que eh bien aujourd'hui il faut trouver des moyens pour substituer la réglementation et c'est ainsi que on risque de voir d'autres évolutions arriver dans les prochains mois. Pour ceux que ça intéresse, éventuellement, il y a un webinaire qui est organisé entre Dune Academy et Doctrine, un webinaire gratuit qui portera sur le sujet qui est organisé demain. Voilà, c'est une petite auto-promo.
Bah écoute, tu as bien raison, on mettra les références sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio, causecommune.fm. Bah, de toute façon, comme tu le dis, on va suivre ce dossier avec intérêt, parce qu'il va y avoir sans doute d'autres décisions, puis il y a aussi les réactions des GAFAM. Je crois que Facebook a commencé notamment avec la CNIL irlandaise, hein, qui a utilisé cette décision pour leur dire d'arrêter d'envoyer des données des Européens et Européennes aux USA, donc un sujet chaud et qu'on va suivre sur la durée. Écoute, Noémie, je te remercie et on se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique.
Parfait, merci. Bon après-midi à tous.
Bonne journée.